avec Fémina.
Drôle d'histoire. Karine Delphini.
Bonsoir. Nos histoires de ce soir dans la première partie de l'émission sont effrayantes, inquiétantes. Nous allons pénétrer dans l'univers étrange de l'auteure suisse Catherine Gaillard-Saron, qui va nous donner quelques frissons. Et pour rester dans l'angoisse, Neil Gaiman nous parlera au travers de son récit d'apparition. Et puis pour que vous dormiez bien tout de même, on s'inquiète pour vous. En deuxième partie d'émission, les récits se feront plus cocasses, seront aussi plus courts. Jean-Claude Gailly est en régie. Quant à Jean-Baptiste Romain, il a choisi les chansons qui vont accompagner ces drôles d'histoires. Et la première est de Françoise Arati.
Mauvaise nouvelle, catastrophe à la chaîne, où l'on voudrait disparaître, mettre un terme à cette vie de labeur et de peine, sans plus de remords qu'un vieux cheval mort. Mais que tu tombes ou non, on chandonne, pas plus de vaincu que de vainqueur. Avec des fleurs, il y a des nuits d'insomnie garanties où l'on se tourne, retourne dans son lit. À l'horizon, ni solution, ni sortie, et dans le corps. Qu'un vieux haron sort.
Chant d'honneur, Françoise Arati. Et là, il est temps de se faire peur, avec une histoire de Catherine Gaillard-Saron, extraite de son livre « Un fauteuil pour trois » aux éditions « Plaisir de lire ». Tout tourne autour d'un arbre, disons maléfique. Il s'appelait Émile, mais tout le monde l'appelait Milo. À le voir si bourru, si farouchement solitaire, on avait de la peine à imaginer qu'il avait été marié un jour. Il l'avait été cependant, et à une femme divinement belle. Elle s'appelait Vénus, ils avaient été heureux ensemble. Jusqu'à ce jour d'été où elle s'était volatilisée, on n'avait jamais retrouvé sa trace et personne n'avait plus entendu parler d'elle. Émile se souvenait que c'était exactement au solstice d'été. C'est depuis cette époque qu'on l'avait affublé de ce sobriquet qu'il détestait. Après le départ de Vénus, les gens avaient tout naturellement pris l'habitude de parler de leur histoire en disant, goguenard, « Ah, vous parlez de la femme des mille, la Vénus de Milo !» Et ils riaient, tout fiers de leur bonne plaisanterie. Les années avaient passé, asséchant le cœur des mille comme ce coin perdu du Méjean. Il semblait que rien ne pouvait apaiser son chagrin. Enfermé dans sa souffrance, il était devenu taciturne, solitaire. Et déçu par l'attitude des villageois, il s'était éloigné du village, renouant progressivement avec une sorte d'état semi-sauvage. Il vivait seul, dans une petite maison de berger vétuste et isolé, et la solitude l'avait rendu bizarre et ténébreux. On le voyait souvent marcher au loin, sa longue silhouette efflanquée se dessinant sur l'horizon. Il parlait tout seul, en agitant les mains, les regards, et ceux qui avaient eu l'occasion ou le courage de l'approcher avaient dit alors qu'il racontait de drôles de choses. Oui, des choses qui semblaient tout droit sorties d'un cerveau malade. Il prétendait que ses yeux noirs, hallucinés, lançaient des éclairs et brillaient d'une lueur jaune inquiétante dans la nuit. Il disait aussi qu'il psalmodiait des propos incompréhensibles d'une voix rauque, en déambulant droit devant lui. Un arbre, qu'il disait maudit, revenait sans cesse dans ses élucubrations. Les gens pensèrent que la disparition de sa femme l'avait rendu fou, qu'il divaguait. Il fut bientôt perçu comme une menace. Oui, les habitants du village le mirent à l'écart, telle une brebis galeuse. On se mit à le craindre et puis à le fuir. Et peu à peu, les villageois finirent par oublier le véritable Émile. Dans leur esprit étroit et superstitieux, ne subsista plus que Milo, être misanthrope et étrange, qui leur inspirait de la peur et qu'ils évitèrent. Il devint le bouc émissaire, l'épouvantail par excellence. Celui que les parents invoquaient pour faire tenir tranquilles les enfants désobéissants. En cette fin de mois de juin, assis derrière les vitres de sa masure, Milo, tourmenté et agité, observait l'arbre dressé au milieu des rocailles. Situé à quelques dizaines de mètres de lui, en plein milieu d'un paysage sec et aride, c'était un grand chêne massif et noueux, presque millénaire. Sa frondaison était dense et cachait, il le savait pour l'avoir constaté au fil des hivers, une ramure anormalement fournie. L'arbre avait une particularité bizarre. Bien que son feuillage fût abondant, les extrémités de toutes ses branches apparaissaient à découvert. Et de loin, l'effet était saisissant, émergeant de la masse compacte et verte, les fines ramilles donnaient l'impression de mains suppliantes tendues vers le ciel. Les soirs d'orage, les éclairs qui l'illuminaient de leurs violents éclats blancs accentuaient encore la ressemblance et lui causaient de grandes frayeurs. Et puis les jours de grand vent, il était presque sûr d'avoir entendu comme des plaintes humaines venir de l'arbre ou des branches. Milo n'était pas couard ni poltron. Plusieurs fois, il avait essayé de s'approcher de l'arbre. Mais à chaque tentative, il avait perçu quelque chose de malsain planer autour de lui. Une présence invisible, maléfique, un souffle qui l'avait glacé. Une force puissante émanait de ce chêne et l'attirait, un magnétisme irrésistible qui lui fichait une peur bleue. Personne n'avait voulu l'écouter. Pourtant, quand Vénus avait disparu, il avait essayé de dire les choses qu'il avait vues. Mais les gens s'étaient moqués de lui et l'avaient ridiculisé. En effet, cet été-là, en dépit de ses 35 ans, Vénus était plus belle que jamais, éperdue d'amour, Émile craignait constamment de la perdre. Il ne pouvait imaginer la vie sans elle. il se souvenait du jour où était arrivé l'étranger. Le gars, là, il s'était installé près de la taverne du village. Il grattait une vieille cithare à longueur de journée. Il était beau, jeune, insouciant. Émile avait immédiatement ressenti de la jalousie envers cet homme, libre comme le vent qui soufflait dans ses cheveux longs. Il avait compris que Vénus lui échappait, qu'elle aussi subissait l'appel irrésistible de cette liberté. Le gars l'avait séduite, ça aussi l'avait senti. Et malgré les dénis passionnés que Vénus lui avait opposés, leurs étreintes n'avaient plus été les mêmes. Quelque chose avait changé, quelque chose s'était cassé. Persuadé de sa trahison, Émile l'avait suivi plusieurs soirs sur la lande. Et de loin, il avait observé, dévoré par la jalousie, l'abri où se rencontraient les deux amants. Et la mort dans l'âme, il avait assisté, impuissant, à la fin de leur amour. Il avait le cœur brisé, souffrait le martyre, mais il l'aimait toujours et il espérait son retour. Et c'est là que, pour la première fois, il avait remarqué l'arbre. Le chêne était pile dans l'axe de la petite cabane de pierre. Et à cette heure du jour, son ombre immense pointait comme une flèche dans la direction de la maison, juste en son centre, en plein cœur. Et à ce moment-là, s'il avait été cette flèche, il les aurait transpercés tous les deux. À cet instant précis, il avait vu ou cru voir l'inimaginable. L'arbre s'était mis en marche dans un bruit d'arrachement épouvantable. Ses branches avaient remué dans tous les sens. Il lui avait semblé que les feuilles s'étaient mises à gémir dans l'obscurité. Saisi de stupeur, Émile avait eu dans le même temps l'impression de réintégrer son corps et de perdre la tête. Avec effroi, il avait regardé l'arbre s'avancer vers la cabane. Et à ce moment-là, même s'il l'avait voulu, il n'aurait pu en prévenir les occupants, tant la peur le pétrifiait. Muet d'horreur, il endura passivement ce qui se déroulait sous ses yeux hallucinés. Et depuis cette terrible nuit de solstice d'été, Émile n'avait plus jamais été le même. Malgré ses nombreuses tentatives pour mettre en garde les villageois, les avertir de ce qui s'était passé, on ne l'avait pas cru. Traité de dément par les habitants, il avait pris ses distances. Et assis derrière la fenêtre de son taudis, une bouteille de pinard à la main, il observait comme un démon l'arbre et la maison, et puis la maison et l'arbre. Depuis ce jour-là, quelque chose de l'arbre s'était infiltré en lui, l'avait contaminé, distillant dans son esprit un poison fait de culpabilité et d'incertitude, de terreur et d'indicible désespoir. Trois fois déjà, il avait entendu l'arbre se mouvoir. Trois fois déjà, il avait enduré les pires tourments, prostré sur sa paillasse, les mains sur les oreilles et l'agneau à la portée de main. Il avait entendu l'effroyable bruit d'arrachement en direction de la maison en pierre, la terre giclée sur le toit, sa bicoque trembler sous les grondements, mais n'avait pas osé sortir. Il ne pouvait que boire et fermer son esprit à cette monstruosité. Il s'en voulait de sa lâcheté, mais c'était au-dessus de ses forces. Un jour, il se l'était juré, il oserait, il trouverait le courage de l'affronter. Mais en attendant, sa vie ne se résumait plus qu'à un face-à-face entre l'arbre et lui. Le chêne était devenu le support de tous ses fantasmes, sa matière à penser, sa sève. Il avait tellement intégré, intériorisé, qu'il était devenu l'arbre, lui prêtant des sentiments égaux aux siens. « La dernière fois qu'il avait entendu l'arbre bouger, c'était au solstice d'été. 2 ans exactement s'étaient écoulés. Émile avait bien vu ces jeunes rôder autour de la maison en pierre. Comment les aurait-il pas remarqués, lui qui la surveillait du matin au soir? Il avait même essayé de les prévenir de ne pas entrer dans cette cahute maudite. Et les mômes lui avaient ri au nez. Ils lui avaient dit d'aller cuver son vin ailleurs. Alors Émile était retourné dans sa baraque. Et ce soir-là, pour la 3e fois, il avait entendu les bruits sinistres. Et 2 jours après, lorsqu'il était allé rechercher des provisions et du vin au village, il apprit que 2 jeunes gens avaient disparu. Bien sûr, les villageois avaient dit qu'ils avaient fugué, que c'était une histoire d'amour. Ah, elles avaient bon dos, ces histoires d'amour. C'était le 3e couple qui disparaissait dans la nature, sans que personne n'ait l'air de s'en inquiéter. Mais quand l'automne était revenu dépouiller le chêne de ses feuilles, Émile avait vu. Une fois de plus, il avait pu constater que 2 nouvelles branches étaient venues se greffer sur le tronc noueux. Depuis la disparition de Vénus, cela faisait maintenant 6 branches qui, monstrueuses, sortaient du tronc énorme de l'arbre comme des bras suppliant vers le ciel. Ce spectacle-là lui flanquait vraiment une trouille de tous les enfers. Toutes ces branches, anormales, invraisemblables, qui lui semblaient s'agiter, gémir dans la nuit, le terrorisaient. Il vivait dans la hantise de l'hiver. Maintes fois pourtant, et sans jamais en trouver le courage, il avait tenté de braver le chêne, de le défier. Et puis lentement, l'alcool ravageant son corps et son esprit, il avait sombré dans une sorte de coma éveillé. Il ne sut bientôt plus qui il était et ce qu'il avait été. La seule chose dont il se souvenait, c'était l'arbre. Un arbre monstrueux qui avait pris racine dans sa tête, propageant jusqu'au plus profond de son âme ses radicelles pénétrantes, envahissantes, destructives, l'enchaînant à jamais à sa folie. Il avait continué à boire et à boire encore, et un jour, un braconnier l'avait trouvé mort. Le braconnier avait trouvé le corps d'Émile, déjà en décomposition, gisant au pied d'un grand chêne sur la lande. Mais ce qui l'avait littéralement épouvanté était que son cadavre était presque tout recouvert de racines brunâtres. Alors, ils étaient tous venus, venus voir ce qu'il était advenu de ce Milot qui les avait tant effrayés. Ultime curiosité et cruauté posthume envers cet homme dont personne ne s'était soucié. Ayant trouvé le corps de Milot trop abîmé, déjà à moitié enterré, ils décidèrent de l'ensevelir au pied de l'arbre. La lune, cette nuit-là, éclaira de sa lumière noire la tombe fraîchement retournée, et juste au-dessus du chêne, Vénus, l'étoile du berger, brilla d'un éclat particulier. Le feuillage de l'arbre, doucement agité par la brise, se mit à gémir. C'était comme une litanie incompréhensible et ses branches, telles des bras, semblèrent implorer le ciel en une prière désespérée. Un craquement, comme un éclatement, vint soudain troubler la nuit estivale, et sur le tronc noueux et plusieurs fois centenaire, une énorme protubérance ligneuse apparut. Dans un frémissement de feuilles, elle se déploya lentement, et de fines ramilles, pareilles à des mains, se tordirent dans la nuit du solstice d'été. Quand l'automne fut venu, et que l'hiver eut dépouillé le chêne de toutes ses feuilles, on put voir que 2 branches, parmi les 7 nouvelles, qui semblaient avoir mystérieusement jailli autour de ce tronc, s'étaient rejointes. Le ramis tordu avait formé un enchevêtrement inextricable juste au-dessus de la tombe de Milot. Et à partir du solstice d'hiver, cependant, l'arbre s'était mis à dépérir. Cette nuit-là, la dernière née des 7 branches, pareille à un monstrueux serpent de bois, s'était enroulée autour de son tronc, l'avait enserré de sa vigueur nouvelle, et depuis l'étranglait lentement.
Une drôle d'histoire.
Il entoure de la maison nuit, hyper nuit. Celui bien nommé la bête, le mal grandi, celui même. Il entoure de la maison, hyper nuit, hyper nuit. Celui bien nommé la bête, celui qui buvait le lait au pimen, celui-là même qui se souvient d'un jour derrière, bien enfui, bien qu'enfui. Il n'a rien oublié du jour entre tous cruel, au bout duquel il a vu sa maison brûler, puis tomber. Là, il revient pour se venger de tout un village, de tout un village. Hélas, je suis là, je suis là. Il entoure de la maison, hyper nuit, il n'a pas oublié ce jour entre tous cruel, au bout duquel tout est parti, tout en fumée. Dans le ciel, là, il revient pour se venger de tout un village, de tout un village. Et là, je suis là, je suis là. Passer le goût des fleurs, le goût des fleurs, le goût des fleurs,
le goût des fleurs,
le goût des fleurs,
le goût des fleurs.
Drôle d'histoire.
Break, break, tick, tock.
Dead Duck, Emiliana Torini, et tout à l'heure sur la première, Bertrand Belin, Hyper Nuit. Après le récit angoissant de l'arbre, on va cette fois-ci parler d'un autre genre de frayeur, les apparitions. Choses qui surviennent comme ça tout à coup, on ne sait pas si elles ont existé ou si elles ne sont que le produit de notre imagination. Des choses fragiles, paru aux éditions Au Diable Vauvert, un récit de Neil Gaiman, intitulé « Le chemin caillouteux du souvenir ». J'avais 15 ans. Nous habitions une maison neuve, bâtie dans le jardin de l'ancienne. La maison s'élevait alors au milieu de nulle part, entourée d'arbres et de prés, au bord d'un chemin sinueux et caillouteux. Je ne doute pas que, si j'y retournais aujourd'hui, je trouverais le chemin changé en une route goudronnée et les prés en un infini lotissement, mais je n'y retourne pas. J'avais 15 ans. C'était en automne, et il faisait nuit. Devant chez nous se dressait un lampadaire, ayant été posé là lors de la construction, aussi déplacé dans ce paysage dépourvu d'éclairage que le lampadaire du monde de Narnia. Il était garni d'une ampoule à sodium dont la lumière jaune balayait toutes les autres couleurs, peignant tout de jaune et de noir. Et la fille que j'allais voir ce soir-là n'était pas ma petite amie, c'était une très bonne copine qui habitait à environ 10 minutes à pied de chez moi, au-delà des prés, dans les vieux quartiers de la ville. Je m'apprêtais à lui rendre visite, pour discuter en écoutant des disques, donc je suis sortie, j'ai dévalé la pente herbue jusqu'au chemin, et je me suis arrêtée net devant une femme qui se tenait sous le lampadaire, les yeux levés vers la maison. Habillée telle une reine des gitans dans une pièce de théâtre ou une princesse mauresque, elle était séduisante sans être belle. Dans mon souvenir, elle était dépourvue de toute couleur, sinon des nuances de jaune et de noir. Surpris de me retrouver face à quelqu'un, là où je n'attendais personne, j'ai dit « Bonjour ». Et la femme n'a rien répondu. Elle m'a regardée. « Vous cherchez quelqu'un ?» ai-je demandé, ou enfin quelque chose comme ça. Et une nouvelle fois, elle n'a pas ouvert la bouche. Elle a continué de me regarder. Cette femme improbable au milieu de nulle part, habillée comme dans un songe. Et elle a continué de ne rien dire du tout. Toutefois, elle a souri. Mais pas d'un sourire plaisant. Et soudain, je me suis retrouvée terrifiée, absolument, profondément terrifiée, tel un personnage de rêve. Je me suis éloignée sur le chemin, le cœur battant à toute vitesse, jusqu'à franchir un virage. Et je suis restée là un moment, hors de vue de la maison, et puis j'ai regardé en arrière. Il n'y avait plus personne dans la lumière du lampadaire. Je ne me trouvais qu'à 50 pas de chez moi, mais je ne pouvais pas rebrousser chemin, je ne voulais pas. J'avais bien trop peur. J'ai donc gagné à toutes jambes la vieille ville le long du sombre chemin caillouteux bordé d'arbres. Et courant toujours, j'ai remonté une rue, puis dévalé celle où s'élevait la maison de ma copine. J'y suis arrivée hors d'haleine, incapable de parler, bredouillant, affolée comme si tous les chiens de l'enfer m'avaient poursuivie jusque-là. J'ai raconté ce qui m'était arrivé, et puis nous avons téléphoné à mes parents, lesquels m'ont affirmé que nul ne se tenait sous le lampadaire et ont accepté sans grand enthousiasme de venir me chercher en voiture car je refusais de rentrer à pied. Voilà donc tout mon récit. Je voudrais qu'il ne soit pas achevé. Je voudrais pouvoir parler du campement de gitans brûlés à cet emplacement 2 siècles plus tôt ou de n'importe quoi qui conclurait l'anecdote, qui lui donnerait une forme d'histoire. Mais il n'y a jamais eu de tel campement. Ainsi donc, comme toutes les irruptions de l'étrange et du bizarre dans mon univers, ces événements restent inexpliqués. Ils ne sont pas en forme d'histoire. Dans ma mémoire, ne demeure qu'un sourire jaune et noir et l'ombre de la peur qui l'a suivi.
« d'en bas, viens. Le devoir nous appelle, viens, suis-moi.
Ne t'en fais pas, mon bel ami. Depuis des siècles, ce chant nous berce. Allonge-toi et repose-toi. Ils s'en sortiront sans nous, crois-moi.
In the stars, in the stars. C'est si beau, c'est si beau. In the stars, in the stars. On est si bien, si bien.
Sur nos ailes, mais tout de même, hormis ces rêves sublimes, n'oublions pas que le temps est cruel et que des âmes en sont victimes.
Que t'ai-je dit? Tu ne vois donc pas, ils n'ont que faire de tes gestes, ne t'en fais pas. Reste avec moi, ils s'en sortiront sans nous, crois-moi.
In the stars, in the stars. C'est si beau, c'est si beau. In the stars, in the stars. On est si bien, si bien.
Laissant envoler des foules orphelines. Rien, nous n'avons rien fait. Fuyons vite avant de payer.
Ne bouge pas, fidèle ami. Bientôt nous serons enfin libres. Ferme les yeux et prépare-toi, ils vont faire sauter le paradis.
In the stars, in the stars. C'est si beau, c'est si beau. In the stars, in the stars. C'est bien là-haut. In the stars, in the stars. C'est si beau, c'est si beau. In the stars, in the stars. On est si bien, si bien.
Compagnon du ciel, Adanowski et Arthur H. sur la première. Après ces deux récits, un tantinet effrayant, on va changer de direction, mais gentiment, oui, c'est-à-dire que on est toujours dans quelque chose d'assez sombre, on parle de mort, mais franchement, ça part de cocasserie, oui, même assez importante. Laisse-moi te raconter les chemins de la vie par Jorge Buquet aux éditions O. En voici un court extrait, l'homme qui se croyait mort. Il était une fois un homme que ses maladies inquiétaient énormément et surtout qui craignait beaucoup l'instant où la mort l'emporterait. Alors un jour, parmi tant d'autres idées folles, il en vint à penser que, si ça se trouvait, il était déjà mort. « Dis-moi, femme, ne serais-je pas mort ? » demanda-t-il alors à son épouse. Et la femme se mit à rire et lui dit de toucher ses mains et ses pieds. « Tu vois, ils sont tièdes. Eh bien, ça veut dire que tu es vivant. Si tu étais mort, tes mains et tes pieds seraient gelés, tu comprends ?» Oui, l'homme jugea cette réponse judicieuse et fut tranquillisé. Et quelques semaines plus tard, un jour qu'il neigeait, l'homme partit dans la forêt couper du bois. Arrivé sur place, il retira ses gants et, avec sa hache, se mit à découper des troncs abattus. Machinalement, il passa sa main sur son front. Et il remarqua qu'elle était froide. Se souvenant de ce que lui avait dit sa femme, il retira ses chaussures, ses chaussettes, et constata avec effroi que ses pieds aussi étaient gelés. Et à ce moment, il n'eut plus de doute. Il prit conscience qu'il était mort. « Oh là là ! Mais il n'est pas bon qu'un mort se trouve ici à couper du bois !» se dit-il. Aussi laissa-t-il sa hache près de sa mule et s'étendit calmement sur le sol gelé, les mains croisées sur la poitrine et les yeux fermés. Il était étendu par terre depuis peu, lorsqu'une meute de chiens s'approcha des besaces qui renfermaient les provisions, et voyant que rien ne les arrêtait, ils déchirèrent les besaces et dévorèrent tout ce qu'elles contenaient de comestibles. Et l'homme pensa « Ils ont de la chance que je sois mort, sinon je les aurais chassés à coups de pied. » Continuant à flairer, la meute découvrit la mule attachée à un arbre, proie facile pour les dents pointues de ses chiens. La mule poussa des hennissements aigus, rua, mais tout ce que pensait l'homme, c'était combien il aurait aimé la défendre s'il n'avait été mort. Et en quelques minutes, ils réglèrent son compte à la mule. Seuls quelques chiens rongeaient encore ses os. Insatiable, la meute continua à rôder sur les lieux. Et il ne se passa pas longtemps avant que l'un des chiens ne flaira l'odeur de l'homme. Il regarda autour de lui et vit le bûcheron étendu, immobile par terre. Et il s'approcha lentement, très lentement, car pour lui les hommes étaient des créatures fort dangereuses dont il fallait se méfier. En quelques instants, tous les chiens entourèrent l'homme, la gueule écumante. « Ah, ah ben, voilà, maintenant ils vont me manger !» pensa l'homme. « Si je n'étais pas mort, ça se passerait pas comme ça !» Les chiens s'approchèrent et, le voyant immobile, le dévorèrent.
Drôle d'histoire.
Serions-nous plus terre à terre que les envies qui en nous se terrent et nous conduisent à l'aigreur, à l'agressivité et aux erreurs, avant d'être 10 pieds sous terre, avant de se risquer en enfer, est-on sûr d'avoir ici essayé tout ce que propose la vie, même si cette vie encore se dilue dans l'à peu près, et le remords, il faudra bien à un moment trouver le temps de visiter l'Orient, écrire un roman, avaler des tas de trucs marrants, ou je sais pas, faire des affaires, des enfants. On regarde derrière soi et on voit tout ce temps passer déjà, ça donne un peu le vertige. On se demande vers quoi on se dirige. On préfère pas y penser. On boit un coup, on se laisse aller. Alors on commence à flipper et on reboit pour s'assommer. Mais si cette vie encore se dilue dans l'à peu près et le remords, il faudra bien à un moment trouver le temps de partir un an, apprendre à jouer d'un instrument, retaper une ferme dans le Morvan, ou je sais pas, prendre un amant.
Cette vie, ah oui, cette vie, Ignatius sur la première dans Drôle d'Histoire. Est-ce que vous pensez être une personne raisonnable? Jean-Claude Gailly qui me regarde, il a l'air de douter. Bon, raisonnable à faire peur, l'homme narrateur de ce récit, il est affreusement. C'est tiré du livre « Le caillou, mort d'amour » de Charles Cros, édition Garnier. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une lettre? Une lettre de ma femme. Mais pourquoi m'écrit-elle? Je l'ai vue ce matin. Oh, ça c'est encore une idée de femme, tiens. De l'exagération en tout. Je n'aime pas, moi, l'exagération. Ce matin, je me suis levée joyeux. Enfin, joyeux sans l'être. Enfin, je me sentais à mon aise. Je ne suis pas comme ces gens qui rient, hi hi hi, sans savoir pourquoi, ni qui pleurent, beuh, 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 sans savoir non plus pourquoi. Non. Moi, je suis sérieux. Pas sérieux, mais raisonnable. Oui, c'est ça, oui, voilà. Oui, je suis raisonnable. Ce n'est pas que je sois vieux, je suis même plus jeune que je ne le parais, sans être jeune. Vous savez, la jeunesse, ça croit pouvoir tout faire, ça trouve tout beau. Oh, le printemps, oh oui, les fleurs. Mais non, n'exagérons rien. Le printemps, c'est la fin de l'hiver. Ou le commencement de l'été, enfin, c'est le printemps, quoi. Je ne suis pas non plus comme les personnes âgées qui n'aimeront pas ceci, qui n'aiment pas ça, qui disent « le printemps, les fleurs ». Ben oui, les fleurs, c'est sur les plantes, ça pousse après les feuilles ou avant sur les pommiers. N'exagérons pas. Alors ce matin je sors, juste bien portant, voilà, il faisait un temps superbe. Enfin non, c'était juste un beau temps, voilà, un beau temps. Je me dis « je vais acheter un journal ». J'achète donc mon journal, je le déplie, il faisait un grand vent. Enfin non, il faisait juste du vent, oui. Je replie mon journal parce que vous savez, que je lise ou que je ne le lise pas, c'est la même chose. Les journalistes, ils disent tantôt blanc, tantôt noir. Et pourquoi tout serait-il blanc? Non, je n'en crois rien. Et puis d'ailleurs, pourquoi tout serait-il noir? Non, je ne crois pas non plus. Alors, bon, il faisait du vent et le vent poussait mon chapeau. Je l'enfonce sur mes oreilles, mon chapeau. Je sais que c'est pas beau, sans être laid. Oui, parce qu'on a encore des idées à part, sur ce qui est beau, sur ce qui est laid. Enfin, quand on a son chapeau comme ça sur les oreilles, ça n'est pas beau, ce n'est pas l'Apollon, c'est commode. Or, ce qui est commode n'est pas laid. Voilà. Alors bon, je marchais. Et mon journal n'était pas tout à fait replié, vous savez, à cause du vent. Pas un grand vent, mais enfin du vent, oui, du vent. Et j'étais au commencement du pont. J'aperçois une petite femme. Vous dire qu'elle était jolie, non, n'exagérons pas. Mais enfin, elle tenait sa robe, comme ça, elle était... Non, elle n'était pas, enfin... Oh, vous me comprenez, hein? Alors, voilà. Donc, je ne suis pas comme ces gens qui vous disent « Les femmes, ah oui, les femmes, et ils en ont plein la bouche. » Non, je ne suis pas non plus comme ceux qui se frisent la moustache et qui disent « Les femmes, oui, les femmes. » Non, moi, je dis simplement « Les femmes. » Voilà. Alors, je la trouvais très bien, cette petite femme. Je ne peux pas dire que j'en étais amoureux, parce que... Non, mais il y a des gens qui disent « Oh, l'amour, l'amour. » Puis qui vont dire à des femmes « Je vous aime, oh oui, je vous aime. » Hein, faut quand même pas exagérer non plus. Alors je tenais mon journal d'une main, et de l'autre j'enfonçais mon chapeau toujours de plus en plus sur mes oreilles à cause du vent. Je marchais, comme ça, près de la petite femme. Vous me direz que ce n'était pas bien, hein, pour un homme marié. Oui, bon, alors je suis mariée, mais mariée sans lettre, hein. Légitimement, bien entendu. Non, mais j'aime ma femme. Oui, n'exagérons rien. J'estime. Non, allez, j'affectionne ma femme, oui. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas de ceux qui disent « Le mariage, oh oui, le mariage !» Et puis, il ne faut pas dire non plus « Le mariage, le mariage !» Voilà, c'est comme être jaloux, c'est de l'exagération. Ainsi, ma femme a un cousin, il s'appelle Oscar, c'est un garçon bien. Non, enfin, c'est un homme comme un autre, et il y a du reste près d'un an que je le connais sans le connaître. On va rire, hein. On va dire qu'il ne faut pas recevoir chez soi des cousins de sa femme. Je sais bien, hein, les histoires qu'on peut raconter. Pfff, n'exagérons rien. Songez que ma femme est toujours nerveuse, qu'elle exagère tout. Hein, depuis 2 ans que je lui parle raison, elle me répond par des attaques de nerfs. Je ne veux pas renoncer au mariage. Je sais bien que le mariage sert à la famille. Qu'est-ce que c'est que ça, hein, la famille? C'est un monsieur un tel, madame une telle, et puis leurs enfants, quand ils ont des enfants. Ce n'est pas que je veuille dire du mal de la famille, ni de la propriété. Hein, la propriété, c'est avoir quelque chose. Avoir quelque chose, c'est posséder. Et quand on possède, on est propriétaire. Donc vous ne pouvez pas nier la propriété. Mais enfin, on ne va pas discuter de ça. Hein, ça nous mènerait beaucoup trop loin. Alors donc, moi je tenais mon journal et mon chapeau. Voilà, un coup de vent assez fort. Enfin non, n'exagérons rien, c'était un coup de vent... Oui bon, quand même, un coup de vent fort qui m'enlève le journal de la main gauche. Je le rattrape de la main droite, mais je lâche mon chapeau. La petite femme se met à marcher vite, alors je veux la suivre. Le vent devient plus fort, il m'enlève mon chapeau. Et pour le rattraper, je lâche mon journal. Et je n'ai plus vu ni journal, ni chapeau, ni petite femme. Ah bah si, quand même, oui, en me penchant sur le pont, j'ai vu mon chapeau qui s'en allait comme ça, hein, dans la Seine. J'étais ennuyée, nu-tête sur le pont. Et un gamin me crie « Oh là là !» Oui bon, bref, il exagérait. Un passant m'a dit que je retrouverais mon chapeau au bureau des filets de Saint-Cloud. Et nous avons une administration admirable. Enfin non, une administration bonne. Voilà, oui, bonne. Je retrouverai mon chapeau, hein. Il faut qu'avant de rentrer, je passe à Saint-Cloud. Vous savez, au filet. Alors, quelle heure est-il là? Ok, il n'est pas tard. Il n'est pas de bonne heure. C'est mon heure, oui. À propos, qu'est-ce que voulait donc me dire ma femme? Je parie que c'est encore des exagérations. Alors, lisons. La vie est impossible avec vous. Je pars avec Oscar. Pff. Ah bon? Ah ben, vous voyez bien qu'elle exagère. Eh bien, il y a des gens dans mon cas qui pousseraient des cris, qui diraient « Ma femme me... Moi, non. Non, je cours. Enfin non, je vais la chercher. Oui, je la retrouverai. Je lui parlerai raison. Que les femmes, que les hommes, que les choses, que la nature entière deviennent exagérées. Je retrouverai mon chapeau. Je retrouverai ma femme. Et je resterai raisonnable. »
What clothes she wears, I don't care.
This Pretty Face, Amy MacDonald. Eh bien, merci d'avoir eu une oreille attentive à ces drôles d'histoires, effrayantes pour certaines, étranges, amusantes pour d'autres. On ouvrira d'autres livres la semaine prochaine. Dès lundi, ce sera avec Lolita. C'est Jean-Claude Gailly qui a réalisé cette émission et Jean-Baptiste Romains nous a choisi toutes les chansons entre les récits.
Drôle d'histoire avec Fémina.
Et la soirée continue sur la première avec Étienne Fernagu, juste après les informations pour la ligne de cœur. On vous attend au 021 653 70 70. Excellente fin de soirée, il est 22h.